13h-14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec une mission toujours la même, hein, vous montrer que même en temps de crise sanitaire, vous avez des idées, de la ressource et que vous les mettez au service de la collectivité. Aujourd'hui, c'est un coup de pouce au petit commerce que nous allons essayer de donner ensemble en vous faisant découvrir des initiatives qui fleurissent un peu partout sur le territoire pour que ces commerces puissent dans quelques jours, quelques semaines, rouvrir sans trop de difficultés. Ces bonnes idées, Aurélien Fleureau est avec moi, bien sûr, pour les recenser. Bonjour Aurélien.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et puis on vous attend, vous aussi, 3921 si vous le souhaitez, ou le hashtag Radio Ouverte sur Twitter. Vous allez voir que quand on est investi dans cette crise, on ne compte décidément pas ses heures. C'est le cas de Jonathan. Jonathan Chollet qui est avec nous. Bonjour Jonathan.
Bonjour Raphaël. Bonjour à tous.
Vous êtes l'un des fondateurs de Petit Commerce. Votre mission habituelle, c'est en fait de cartographier les commerces de proximité pour leur donner de la visibilité. Or, en ce moment, ces commerces, pour la plupart, ont baissé le rideau. C'est donc comme ça que vous avez eu l'idée de monter une opération spéciale que vous avez baptisée soutien-commerçant-artisan.fr, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. En fait, avec l'équipe de petitcommerce.fr, on s'est tout de suite mobilisé et dès le 23 mars, on a créé un tout nouveau site qui permet aux habitants de soutenir leurs commerçants de quartier de façon très simple en achetant un bon d'achat en ligne maintenant et qui sera utilisable dès la fin du confinement, dès l'ouverture des boutiques et pendant toute l'année 2020.
Donc comment ça marche? Je vais sur le site, je choisis par exemple mon fleuriste habituel et je préachète en quelque sorte un bouquet.
Oui, c'est vraiment très simple. Il suffit d'aller sur le site soutien-commerçant-artisan.fr. On peut faire une recherche par ville ou bien si l'on connaît directement son commerçant, on peut taper son nom. Et une fois sur sa fiche, eh bien, on peut choisir de le soutenir avec un bon d'achat de 20, 50 ou 100 euros et vous recevez tout de suite un email avec votre bon d'achat. Vous pourrez présenter toute l'année 2020 à votre commerçant qui sera hyper content. Et vous pouvez même lui laisser un petit mot. Vous pouvez lui laisser un petit mot de soutien. On a beaucoup de demandes et beaucoup de consommateurs qui veulent soutenir leur commerçant en ce moment.
Vous faites aussi, et c'est important de le dire, des portraits de ces petits commerçants qu'on croise évidemment quand on va faire ses courses. Mais, oui. Mais vous avez voulu finalement les mettre à l'honneur, les mettre à la une.
Oui, c'est vrai que nous, on travaille depuis des années avec petitcommerce.fr pour valoriser les commerces de proximité indépendants. Donc, c'est notre quotidien d'aider les commerçants à être plus visibles et à se faire connaître de la part des consommateurs. Et là, on a tout de suite voulu agir avec une initiative qui est complètement bénévole. Hein. Là, toute l'équipe bosse 7 jours sur 7 pour aider le plus possible de commerçants partout en France avec un système qui est très simple. Pour le consommateur, c'est simplement une avance d'argent, donc c'est un geste solidaire. Et pour le commerçant, ça peut faire une grande différence, puisqu'il va maintenir le contact avec ses clients, même si sa boutique est fermée. Il va rester positif, ça c'est très important que les commerçants gardent le moral. Et puis bien sûr, il reçoit de la trésorerie, puisque le principe,
oui,
c'est que l'on va reverser chaque semaine le montant des bons d'achat qui sont commandés sur le site.
Et ça marche, hein, surtout, Jonathan, faut le dire, parce que à Aix, par exemple, je crois qu'il y a une librairie qui a reçu 3000 euros en 2 semaines. Même chose pour une boutique de prêt-à-porter.
Ouais, c'est vraiment très impressionnant. Il y a beaucoup de commerçants qui s'inscrivent, quasiment 1500, des centaines de demandes par jour, mais surtout, il y a des commandes. Il y a beaucoup de commandes de consommateurs. On vient de dépasser, mais largement, les 150 000 euros ce matin de commandes en 15 jours. Et effectivement, il y a des boutiques qui ont déjà collecté plusieurs milliers d'euros, la librairie Riste à Cherbourg, la librairie Le Blason à Aix-en-Provence, à Nantes, une petite boutique de prêt-à-porter qui s'appelle Louise Larobel. Bref, dans toute la France, il y a des consommateurs, des habitants qui veulent soutenir leurs commerçants.
Ouais, ça fait du bien, effectivement, de le savoir. Vous restez avec nous parce qu'il y a énormément d'initiatives du même genre qui se multiplient et toutes vont dans le bon sens, hein, forcément, c'est celui de l'entraide. Bonjour Mathieu Mort.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez, vous, cofondé l'initiative sauvonscommerces.org, association qui est toute récente. Hein. Ça fait une semaine seulement que vous vous êtes organisée. Et je crois que c'est avec votre femme que vous avez eu cette idée, parce que vous êtes tous les deux dans le domaine de la technologie.
C'est exactement ça. Alors, on a créé sauvonscommerces.org avec l'objectif d'aider les commerçants durant la crise du Covid. Ils nous donnent tellement au quotidien et on a envie de leur rendre. Et on pense, voilà, à tous les petits commerçants, évidemment, notre restaurant favori, notre boulanger, notre magasin de vêtements préféré ou encore un magasin de jeux de société.
Et alors, en fait, du coup, vous avez mis le site très vite en place, je crois qu'en seulement 24 heures, et vous avez 40 000 vues.
Exactement. On a fait un appel sur les réseaux sociaux avec un site qui expliquait notre idée. Et en 24 heures, on a eu 40 000 vues du site. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, du coup, maintenant, il faut qu'on le fasse. Et en fait, ce que j'aime à dire, c'est que dans cette guerre du coronavirus, on constitue la troisième ligne. Il y a évidemment les soignants qui sont en première ligne, ils sont sur le front tous les jours et on les remercie. Ensuite, il y a les entreprises, il y a l'État aussi qui sont en seconde ligne. Et nous, bah, les particuliers en troisième ligne, on n'a pas les talents des premiers et on n'a pas les moyens des seconds, mais on a d'autres expertises et on a une énergie incroyable à mettre au service. Donc l'idée, on l'a eue effectivement avec ma femme, elle travaille chez Vente Privée. Moi, j'étais directeur marketing chez Uber Eats. Et donc notre idée, c'est de mettre notre expertise digitale au service des commerçants.
Et je le précise, votre site, parce que c'est important à dire, il ouvre aujourd'hui.
Exactement. Donc on était en période de test. Et le lancement sera demain matin. Mais donc dans la période de test, on a pu valider que ça fonctionnait. On a déjà quelques dizaines de commerçants et quelques transactions, quelques achats, de bons d'achat qui ont eu lieu. L'idée, c'est d'acheter aujourd'hui ce que vous consommerez demain chez votre commerçant via un système de bons d'achat.
Aurélien, il y a aussi un guide numérique qui a été publié et qui peut être utile pour aider les petits commerçants.
Oui, c'est un guide qui s'appelle « Le numérique au service du commerce de proximité ». Il a été réalisé par le CDCF, le Conseil du commerce de France, avec Petit Commerce d'ailleurs. Ce guide d'une cinquantaine de pages compile en fait tous les conseils et les outils utiles aux commerçants pour se familiariser avec le numérique, si ce n'était pas le cas jusque-là. Par exemple, comment gagner en visibilité sur Internet, comment informer, fidéliser les clients ou même gérer sa e-réputation. Et puis surtout, comment proposer un service de livraison adapté en ce moment. Chaque commerçant de proximité peut donc y piocher quelques idées, quelques conseils en fonction de ses besoins.
Mathieu Mort, vous nous disiez que le site va ouvrir demain. On n'a pas précisé que les bons d'achat vont rester valables pendant une durée importante, jusqu'au 30 juin 2021.
Exactement. Alors, on ne sait pas quand se terminera la crise du Covid et on l'espère le plus rapidement possible, mais on souhaitait que ce ne soit pas une contrainte pour les consommateurs d'avoir à l'utiliser dans une période réduite. Donc, il y aura a priori au moins un an de validité des bons d'achat.
Même chose chez vous, Jonathan Chelet, ça peut durer, c'est bon, on pourra les
utiliser.
Alors
pour nous, on a choisi une date de limite jusqu'au 31 décembre, tout simplement pour inciter vraiment les Français à aller le plus rapidement possible dans les rues, dans les boutiques de quartier, pour aider les commerçants, parce que c'est vraiment en 2020 qu'ils vont en avoir besoin.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous avec ces deux initiatives et on va continuer à en découvrir dans La France Bouge. Il est 13h14.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Le petit commerce, c'est la vie de nos quartiers, c'est celui qui fait battre le cœur de nos villes, de nos villages, qui crée du lien aussi. Alors, quand les rideaux sont baissés, il faut évidemment imaginer des solutions pour demain, pour qu'ils puissent renaître sans trop de difficultés. Bonjour Erwan Simon.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Cibleur, qui est une plateforme de marketing digital au profit des commerçants. Et avec la crise qui secoue notre pays et le monde entier d'ailleurs, vous avez eu l'idée de mettre en place sauvetoncommerce.fr. Même principe là aussi, avec un bon qui peut aller de 10 à 400 euros carrément.
Oui, tout à fait. On a décidé de lancer une plateforme de soutien à nos commerçants français. Donc avec une idée, des bons solidaires. Pour leur permettre de collecter de la trésorerie dès maintenant et surtout de préparer la reprise économique, parce que on a tous besoin de retrouver une vie normale, et donc ces bons solidaires vont aider nos commerçants.
Comment ça se passe? Comment est-ce que vous avez par exemple recensé les commerçants? Vous les aviez déjà dans vos listings? Vous les connaissiez déjà?
Alors, il s'avère que notre plateforme avait été utilisée par un certain nombre de commerçants, donc qui ont bénéficié d'un accès direct. Et puis surtout, depuis une dizaine de jours, on a été retenu là par le gouvernement comme une des solutions de sortie de crise, donc qui nous a donné finalement une visibilité nationale très rapide. Donc, en l'espace d'une semaine, il y a 300 commerçants de tout type, que ce soit des coiffeurs, des cavistes, des hôtels, des restaurants qui nous ont rejoints. Et finalement, le projet prend une vitesse relativement forte grâce à ce soutien du gouvernement.
Oui, c'est important effectivement de mettre en avant des initiatives et de voir qu'elles se multiplient. Comment est-ce que vous gérez justement les vous allez garantir un fonds de trésorerie aux commerçants, c'est ça, avec la question aussi des frais bancaires qui peut se poser?
Oui, exactement. Donc ce qu'on a décidé, c'est que pour tous les commerçants qui avaient vraiment besoin d'aide, c'est entièrement gratuit. Aussi bien la création de la boutique, la mise en avant, que les frais bancaires. Et ça, c'est rendu possible avec le soutien de ce qu'on appelle des commerçants solidaires et des entreprises solidaires comme le Crédit Agricole Aquitaine, Cdiscount, VVF Village, qui prennent à leur charge en fait ces frais de gestion et qui permettent de faire en sorte que pour tous les commerçants qui en ont vraiment besoin, ça soit entièrement gratuit.
Oui, donc c'est important parce que beaucoup de petits commerces se posent effectivement la question. Ce site, vous l'avez conçu rapidement, hein, 3 jours je crois seulement, c'est rapide,
ouais, c'est
très efficace.
Fin mars, on a eu cette idée-là avec l'équipe. On a eu nous aussi hein, une baisse d'activité très forte via nos clients. Et donc, en se posant la question de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on se mobilise, on s'est lancé sur 3 jours, vraiment une sorte de hackathon. Et puis quelques jours plus tard, avec l'arrivée du gouvernement et de BPI, finalement, ça a pris une ampleur. Là, il y a aussi des mairies, hein, par exemple, comme Lagny-sur-Marne ou Alençon, qui se mobilisent, donc qui viennent.
Oui, puis vous avez des gros groupes aussi qui sont derrière vous en soutien.
Ouais, c'est important parce que pour que les petits commerces soient visibles, on a besoin d'acteurs comme un Cdiscount par exemple, ou comme La Redoute, qui peuvent parler rapidement à 10 millions, 20 millions de Français pour faire connaître aussi bien son commerce que les commerçants du coin. Et donc on utilise hein, tous ces grands commerces. Et les mairies hein, comme Alençon, je disais, ou Lagny-sur-Marne qui vont en fait fédérer la visibilité et la vocation en fait de ce projet.
Alors justement, vous étiez en train de parler des élus. Aurélien Fleureau, les petits commerces vont aussi peut-être bénéficier de l'aide des députés parce qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée.
Oui, c'était il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. L'idée vient du député Les Républicains du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle, qui souhaite que les bénéfices réalisés par les grandes surfaces sur tous les produits non alimentaires soient taxés à hauteur de 50% pour aider les petits commerces. Il parle là d'une forme de concurrence déloyale, puisque depuis le confinement, beaucoup de ces petits commerçants doivent fermer alors que les grandes surfaces et les plateformes également, hein, type Amazon, voient leurs clients augmenter. La proposition de loi vise donc à créer ce qui serait une contribution exceptionnelle de solidarité économique et pourrait par exemple permettre de faire face aux charges fixes comme le loyer.
C'est important, effectivement, ces fameuses charges fixées. On va en parler. Vous restez avec nous parce que plus les initiatives sont nombreuses, évidemment, et plus les commerces auront de chances de s'en sortir. Bonjour Christophe Galichon.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction de Sud-Ouest et vous êtes aussi le coordinateur de Course contre la montre. Vous avez eu l'idée de lancer une sorte de marketplace pour relayer des initiatives, celle de la Fédération des commerçants, celle de certaines chambres de commerce aussi. Ce système permet de vendre pendant la crise et après la crise via la plateforme que vous avez mise en place.
Oui, absolument. C'est le même principe, une plateforme entièrement solidaire puisque Sud-Ouest ne prend pas de commission sur cette plateforme qu'on a développée nous aussi sous forme de hackathon en quelques heures. Et donc c'est une plateforme solidaire qui effectivement permet aux producteurs, c'est-à-dire tous les fermiers, tous les producteurs fermiers qu'on peut avoir sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, mais au-delà également, les restaurants, les artisans, les acteurs du tourisme, de proposer des offres, soit sous forme de bons d'achat, et effectivement ça permet de soutenir leur trésorerie, soit sous forme de produits à livrer ou à venir chercher un peu plus tard à la fin du confinement. Là aussi, encore une fois, ça participe de toutes ces initiatives solidaires qu'on a souhaité mettre en place. Voilà.
Oui. Qui a recensé les commerces, les artisans? Comment est-ce que vous les avez finalement trouvés? Est-ce qu'ils sont venus à vous directement? Cet élan de solidarité, on le voit, hein, il est important un peu partout.
Là, c'est une initiative qui est toute fraîche, mais qui est partie très fort, hein, puisque ça date d'une semaine. La chance d'un média régional, c'est d'être a priori très implanté sur son territoire en proximité. Donc, on est en plein dans l'ADN finalement d'un média régional, c'est-à-dire que On est, notre mission, notre rôle, c'est d'apporter une information précise de qualité, des services, mais également de donner du sens aux communautés locales, d'être un acteur finalement et pas simplement un observateur. Et ça, c'est vrai, crise ou pas crise. Et donc, effectivement, grâce à nos audiences, tant sur le papier que sur le digital, on a tout de suite, évidemment, pu agréger, susciter l'intérêt, l'attention des producteurs, etc., qui se sont manifestés en quelques jours en nombre. Pour accompagner cette plateforme. Et évidemment, l'idée, c'est que l'audience soit mise à contribution. Et en l'occurrence, c'est le cas pour faire en sorte, encore une fois, parmi toutes les initiatives, de participer au soutien de l'économie, et en l'occurrence, locale pour ce qui nous concerne.
Christophe, c'est vrai que le métier, le nôtre, hein, change aussi. Finalement, on devient, on l'était déjà quand on était en proximité et avec des émissions comme La France Bouge, mais on est aussi finalement un maillon de cette chaîne de solidarité. C'est important de le dire.
Absolument, ouais. J'emploie le terme acteur à escient, c'est-à-dire que je pense que vraiment on a un rôle à jouer. On le joue, vous et nous, à longueur de temps. C'est pas toujours perçu, reconnu, et parfois pour de bonnes raisons. Mais en l'occurrence, on a vraiment un rôle d'acteur dans cette période-là. Un média, c'est avant tout, il faut vraiment le rappeler, un outil de citoyenneté, hein, de mon point de vue. C'est pour un média régional un outil aussi d'épanouissement de ses lecteurs, d'épanouissement de son territoire. Et donc cette initiative-là fait partie, encore une fois, de toutes les initiatives qu'on peut prendre et que tous les médias prennent. Votre émission est un bon exemple pour faire en sorte de jouer notre partition. On a des atouts pour ça, on a des équipes qui sont extrêmement mobilisées, on a la chance de faire un métier fantastique, à la fois par l'information, encore une fois, de qualité, rigoureuse, précise, et Dieu sait si on en a besoin dans la période, mais aussi pour accompagner tout un chacun, pour nous accompagner dans cette période. Et donc, je salue au passage l'énergie incroyable des équipes qui participent à toutes ces initiatives, parce que à Europe 1, je suppose, mais comme à Sud-Ouest, on a déployé des trésors de créativité pour faire face à la crise et continuer à faire notre métier dans cette période difficile.
Ouais, voilà. J'en profite pour embrasser et remercier l'équipe de La France Bouge. Alors vous allez découvrir quelques visages, hein, mais il y a Laetitia Farine, il y a Cyriel Cohen, il y a Aurélien Fleureau qui est en ce moment avec nous, il y a Elisabeth Assayag aussi, il y a Charlotte Barrican qui est avec nous, et puis Angèle Châtelier et Jérémy qui assure la réalisation de cette émission en ce moment. Voilà, merci parce que sans toutes ces personnes et sans le fameux MMA dont on entend beaucoup parler ici à Europe 1 en ce moment, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, et c'est important d'être dans cette chaîne de solidarité.
Depuis notre beau Sud-Ouest, on les salue.
Bon, Aurélien, je voudrais me tourner vers vous dans le sous-sol, et je vais envoyer une photo de vous dans votre sous-sol d'ici quelques secondes, parce que j'arrive à tout faire en même temps. Si, c'est important. Les petits commerçants demandent un meilleur accès en ce moment aux protections sanitaires pour ceux qui continuent à travailler, parce qu'il y en a.
Oui, c'est une information de ce matin. La Confédération des commerçants de France exprime son inquiétude pour la santé des chefs d'entreprise et des salariés qui travaillent depuis 3 semaines, mais sans protection efficace. Alors ça concerne aussi bien les buralistes, les marchands de journaux, les taxis, les poissonniers et de nombreux indépendants. La Confédération demande donc à l'État de répondre en urgence et de fournir des masques, du gel hydroalcoolique à tous ces commerçants.
Merci d'avoir été avec nous et de participer à cet élan de solidarité. On en a tous besoin aujourd'hui face à cette crise. Il est 13h26.
Europe 1.
Et vous le savez, hein, certains secteurs sont plus touchés que d'autres, y compris dans le commerce. Et ils s'organisent, c'est le cas, vous allez le voir, des restaurateurs et des libraires. A tout de suite.
Raphaël Duchemin.
Il y a des petits commerces qui ont pu, dans nos villes, dans nos quartiers, rester ouverts, hein, même si c'est vrai, leur chiffre d'affaires n'est pas vraiment celui enregistré en temps normal. Mais d'autres ont complètement cessé leur activité, ne savent pas quand ils pourront vraiment redémarrer, ni d'ailleurs dans quelles conditions. Bonjour Edouard Osegui.
Bonjour à tous. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Emblem et cofondateur de la plateforme Sauve ton resto. Alors, je le précise tout de suite, c'est une initiative solidaire. L'idée, je crois que c'est de nous proposer, là aussi, d'acheter des bons dans des restaurants où l'on pourra aller après la crise. Mais on paye tout de suite.
Exactement. L'idée de cette plateforme solidaire aux acteurs du CHR, donc café, hôtel, restaurant, c'est de pouvoir vendre leur table, leur nuitée, leur expérience dès aujourd'hui pour une utilisation après confinement.
Alors, l'idée, c'était vraiment de vous adresser à tous les petits indépendants, hein, finalement, qui ont monté leur resto dans leur coin, qui ne dépendent pas de grosses chaînes, qui n'ont pas les reins suffisamment solides et qui ont besoin de la trésorerie du quotidien pour continuer à fonctionner.
Exactement. Le métier de la restauration est un métier de passionné et c'est vrai qu'aujourd'hui, peu ont des parachutes de sécurité pour pouvoir se permettre d'arrêter plusieurs semaines leur activité. Et c'est pour ces personnes-là, ces commerçants-là, qu'on a créé la plateforme Sauve ton resto avec le pot commun, qui était un acteur du social payment, donc des cagnottes en ligne. Et donc voilà, on a permis vraiment à ces restaurateurs de pouvoir se consolider dès maintenant leur trésorerie. Et il y a trois axes bénéfiques sur cette plateforme du côté des restaurateurs, parce que ça leur permet d'avoir un chiffre d'affaires instantané. On fait les virements du budget qui a été collecté toutes les deux semaines aux restaurateurs. Ça donne du baume au cœur aussi également aux clients qui peuvent dès aujourd'hui prévoir leur première sortie après confinement, l'offrir à leurs proches, à leurs amis, à leurs collègues, à leur famille. Donc voilà, l'idée c'était vraiment aussi de pouvoir aider les soignants, parce qu'il y aura 1 euro par voucher qui est reversé à la Fondation des Hôpitaux.
Oui, c'est important, 7 euros reversés à la Fondation des Hôpitaux. Vous avez, à cette date, recensé combien d'établissements ?
La plateforme a été ouverte il y a 5 jours. On a aujourd'hui 250 établissements qui se sont inscrits. On les met en ligne au fur et à mesure. Et on a déjà vendu plus de 500 tables. Donc en seulement 5 jours, on a déjà permis à des petits établissements, des petits restaurateurs, de payer leur loyer d'avril, même s'il est reporté. Ils devront le payer à un moment donné. Et nous, voilà, notre idée ici, c'est vraiment de pouvoir les soutenir économiquement. Et voilà, en 5 jours, on a déjà permis à de nombreux restaurants de pouvoir consolider leur trésorerie.
Oui, l'idée, c'est de dupliquer un petit peu partout en France. C'est possible aujourd'hui ?
Tout à fait. Alors aujourd'hui, la plateforme est ouverte à l'ensemble des restaurateurs, hôteliers et acteurs du loisir en France. On a ouvert ça très rapidement et aujourd'hui c'est vrai qu'on a besoin d'avoir plus de visibilité parce que ça marche. Maintenant on a besoin que plus de restaurateurs puissent entendre l'existence de cette plateforme pour pouvoir aider le plus de monde possible.
Alors vous restez avec nous parce qu'on a parlé des restaurateurs et c'est vrai que c'est important, mais il y a aussi un autre élan de solidarité qui est en train de naître pour sauver les librairies indépendantes. Bonjour Guillaume Husson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général du syndicat de la librairie française et vous avez lancé, vous, un appel pour qu'on puisse créer un fonds de soutien aux libraires. Vous avez, je crois, d'abord travaillé en amont avec les éditeurs pour essayer de repousser les échéances, mais là, maintenant, les éditeurs, eux aussi, sont touchés, ils sont fermés.
L'urgence était effectivement de repousser les paiements, les achats de livres que les libraires devaient aux éditeurs dès la fin mars et à la fin du mois d'avril. Donc ça, on a eu un élan de solidarité des éditeurs et principalement de la part des grands groupes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il s'agit de report d'échéances, mais ces échéances seront à payer à partir du mois de juin. Donc la question maintenant, c'est de reconstituer les trésoreries des librairies pour qu'elles puissent faire face à ce mur d'endettement qui se profile à peu près vers l'été.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement ? Est-ce qu'on peut faire le même système ? Est-ce qu'on peut créer une cagnotte Sauve ta librairie et on va donc acheter, précommander des livres ?
Alors ça commence à se faire parce que plusieurs librairies ont mis en place ce système de précommande, soit directement auprès de leurs clients, soit grâce à des plateformes comme celle qui vient d'être décrite, soit même au niveau de certaines villes ou des municipalités prennent des initiatives en ce sens. Donc ça, c'est un appel à la mobilisation et à la solidarité des clients qui sera tout à fait nécessaire au moment de la reprise. Parallèlement, nous avons effectivement lancé un appel à la création d'un fonds exceptionnel de solidarité de la part des pouvoirs publics, de la part de partenaires privés et de la part des régions. Donc nous travaillons actuellement sur la la constitution de ce fonds, nous considérons que les pertes de librairies sur un mois de fermeture, c'est à peu près entre 10 et 15 millions d'euros. Voilà, donc si les librairies sont fermées deux mois, ça veut dire qu'il va nous falloir trouver entre 20 et 30 millions d'euros. Nous avons déjà près de 10 millions d'euros de la part du Centre national du livre, de la part d'une association d'éditeurs qui s'appelle l'ADELC. Et donc nous travaillons actuellement principalement avec les régions pour compléter ce fonds.
Oui, c'est important hein, parce que je vais prendre mon exemple tout bêtement. J'ai appelé moi ma libraire, j'avais envie de lui acheter les livres directement dans sa petite librairie de quartier où je vais régulièrement. Et elle n'avait pas les moyens de me fournir les livres, tout simplement. Donc il faut garder ce lien, il faut continuer à se dire que voilà, si on n'achète pas tout de suite dans sa librairie, on pourra précommander et on pourra peut-être les aider à survivre dans les semaines, dans les mois qui vont venir.
Il faut rappeler que les librairies font l'objet d'une interdiction d'ouverture. Hein. Les librairies ne ferment jamais, évidemment, de gaieté de cœur. Donc, voilà, les librairies sont solidaires de l'exigence sanitaire qui s'impose à nous tous actuellement. Mais c'est une branche du commerce qui est tout à fait fragile. Donc, chaque jour qui passe, les fragilise davantage. Donc, évidemment, tous les libraires ont hâte de la réouverture de leur commerce, mais en attendant, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont l'interdiction d'accueillir du public, ils ne peuvent pas rouvrir leur librairie.
On parle des librairies, Aurélien, il y a aussi les fleuristes qui sont sévèrement impactés hein, par cette crise.
Oui, bien sûr, hein, parce que depuis le début du confinement, la filière horticole a connu une baisse de ses ventes de 86%, selon Valor, l'organisation interprofessionnelle du secteur. Alors, parmi les initiatives, vous avez la société Fleur d'ici, qui propose à tous les fleuristes qui le désirent d'utiliser son application de vente en circuit court. Les livraisons peuvent se faire suivant un protocole qui évite tout contact, évidemment, pour limiter les risques de contamination. Et puis, parmi les géants du secteur, Interflora a proposé à certaines de ses boutiques en France, et notamment à Paris, de mettre en place des livraisons et des fleuristes volontaires peuvent déposer un bouquet devant votre porte. Là aussi, tout se passe sans contact. Et d'ailleurs, 3 euros par commande seront reversés à la PHP.
Merci d'avoir été avec nous pour parler du livre et des restaurants aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h35, on continue à parler petit commerce.
Europe 1.
Et vous allez voir que des étudiants, des associations, mais aussi des coopératives se mobilisent pour voler au secours de nos petits commerçants. À tout de suite.
Raphaël Duchemin.
Vous avez une idée pour aider les petits commerces, car il faut aussi penser à eux. Eh bien, venez la partager avec nous. Hein. Écrivez-nous, on va relayer votre initiative comme on le fait aujourd'hui. Pour Wishibam, bonjour Charlotte Journeau-Bohr.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de Wishibam. C'est une marketplace locale dédiée au commerce de centre-ville qui, évidemment, sont désertés en ce moment. Votre spécificité, en règle générale, c'est de tout digitaliser. Et du coup, vous avez proposé vos services aussi bien aux indépendants dont on a parlé qu'aux franchises. L'idée, c'était de recréer finalement le centre-ville tel qu'il est habituellement.
C'est exactement ça. Donc, moi, c'est une entreprise tech qui a été créée il y a 5 ans. On a investi 8 millions d'euros en recherche et développement. Et aujourd'hui, on a la seule technologie capable de créer des sites marchands basés sur les stocks des magasins en y intégrant une infinité de commerçants de façon automatique. Et de façon automatique, ça veut dire zéro effort pour le commerçant. Donc, c'est hyper important. Et aujourd'hui, en fait, on sait que le commerce physique souffre. Et le commerce de centre-ville, qui souffre déjà depuis longtemps, est frappé encore une fois de plein fouet. Et donc, on propose de mettre à disposition des collectivités locales, des villes, notre solution gratuitement pour pouvoir créer ces sites marchands citoyens pour les villes et y intégrer les indépendants, les franchisés, même les enseignes qui souhaitent y être intégrées. Parce que ce qui fait la force d'une marketplace, c'est la multitude de choix. Et donc, du coup, plus il y a de commerçants et plus tout le monde générera du chiffre d'affaires. Enfin, tous les commerçants généreront du chiffre d'affaires. Et c'est vraiment notre but. C'est
de les aider à générer du chiffre d'affaires. Ça ouvre le 15 avril à Angers, exactement. Je crois déjà. Hein.
Exactement. On lance la première à Angers le 15 avril avec plus d'une centaine de commerçants, tous secteurs confondus. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on peut trouver dans la ville, on le trouvera sur le site internet. Et donc, pour une fois, acheter en ligne favorisera l'économie locale. On sait aussi, on travaille avec un prestataire du dernier kilomètre qui ne travaille qu'avec des transporteurs green, donc à l'électrique. Et donc, en fait, la livraison se fera aussi dans la journée avec avec des voitures ou des vélos pour respecter aussi l'environnement, puisqu'on voit que l'environnement, pour le coup, est le grand gagnant de cette crise, par contre.
Bon, je crois que le chien est content, il a arrêté d'aboyer. Il s'appelle comment?
Il s'appelle Edgar. J'ai des chiens.
Bon, vous dites bien à Edgar qu'on va faire aussi une émission sur les animaux, hein, qui se rassure, on va en parler, c'est important aussi parce que ils sont concernés aussi par cette crise. Vous restez avec nous, on va aller voir ce que les étudiants de la 3W Academy ont mis en place. Bonjour Jamish Dalili.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous, je crois que j'ai écorché votre prénom.
C'est pas un problème, Jamshid.
Vous êtes fondateur de cette 3W Academy. Là aussi, vous avez décidé de mettre votre compétence numérique au service des commerçants. Comment est-ce que vous vous y êtes pris?
C'est pas seulement ma compétence numérique à moi. Nous avons 200 développeurs web qui sont en cours de formation chez 3W Academy. C'est notre métier. Et c'est une initiative qui est venue à la base où les étudiants et nos directrices de l'emploi se sont dit pourquoi ne pas mettre nos compétences gratuitement à la disposition des commerçants pour leur permettre d'avoir une existence numérique et d'avoir des outils de communication numérique pour vendre, hein, très, très concrètement, dans la période actuelle.
Donc ça veut dire quoi? Vous leur faites des pages web, des blogs, vous les aidez à se mettre sur les réseaux sociaux?
Il y a une trentaine de mes étudiants qui sont portés volontaires et qui attendent que des commerçants leur demandent de les aider pour se mettre sur les réseaux sociaux ou pour créer une page vitrine qui permet de présenter ce que fait le commerçant. Aujourd'hui, le commerçant, généralement, il a le rideau baissé. Et il y a juste quelquefois un petit mot manuscrit qui dit « bon, on verra à la fin du confinement ». Là, l'idée, c'est de laisser des coordonnées, pas seulement un numéro de portable, mais l'adresse d'un site web où les clients habituels qui passent devant le commerçant peuvent voir et aller sur le site vitrine du commerçant et voir les produits qui sont offerts par le commerçant et également s'il y a une continuité de service.
Ce sont des volontaires, des étudiants, des formateurs aussi de chez vous, hein, qui ont décidé de finalement mettre toutes ces compétences au service des commerces.
Oui, les formateurs encadreront les étudiants pour la réalisation des sites. Les étudiants sont autonomes, mais c'est encore mieux quand le projet est encadré. Ça fait partie de notre méthode d'enseignement de toute manière.
Oui. Aurélien, il y a aussi des startups qui se mobilisent et qui proposent des solutions innovantes aux commerçants. On vient de le voir, mais il y en a d'autres.
Bien sûr, oui, c'est le cas notamment de Kitties, une fintech de Montpellier qui mise sur le cashback pour revitaliser le commerce de proximité. Alors le cashback, la remise en argent en bon français, ouais, c'est principalement utilisé dans le e-commerce. L'internaute va acheter un produit chez un marchand partenaire du site sur lequel il s'est rendu et en contrepartie, eh bien, il va recevoir de ce site un remboursement. Alors c'est un petit pourcentage du prix d'achat. Et là, l'idée de Kitties, c'est de négocier auprès des pouvoirs publics et des collectivités des fonds publics sous forme de dotations qui seront ensuite redistribués en euros après chaque achat dans les commerces de centre-ville. Donc voilà, double intérêt, relance d'activité pour les commerçants et pouvoir d'achat pour les consommateurs.
Ah oui, c'est important, effectivement. On voit qu'on est, tous importants dans cette chaîne de solidarité. Vous restez avec nous. Je voudrais qu'on accueille ensemble Émilie Le Courtois, parce que la volonté d'aider, d'être solitaire, elle est là aussi chez Smart France. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes administratrice de cette coopérative qui est en fait la plus grande coopérative de travailleurs indépendants d'Europe. Et vous dites que rien qu'en Belgique et en France, je crois que vous avez fait les calculs, ce sont 75 000 journées de travail qui ont déjà été perdues.
Alors, qui n'ont pas encore été perdues, mais qui vont être perdues sur la période qui est annoncée de confinement.
Oui, période dont on ne connaît toujours pas la fin. Hein. Or, il y a des travailleurs qui, dans le cadre des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, passent malgré tout au travers des mailles du filet. C'est eux que vous essayez d'aider aujourd'hui.
Alors effectivement, Smart est une coopérative de travailleurs autonomes. Donc ce qu'on entend par travailleurs autonomes, ce sont ces femmes et ces hommes qui développent leur activité en conciliant l'autonomie d'un indépendant tout en bénéficiant de la protection sociale d'un salarié. Concrètement, on pourrait appeler ça aussi des travailleurs atypiques. Ce sont des artistes, des créateurs, des pigistes, des formateurs ou des consultants. Et qui aujourd'hui ne rentrent pas en ligne de compte de toutes les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, soit parce qu'ils ne sont pas éligibles au chômage partiel, parce qu'ils enchaînent les contrats courts, soit pas éligibles non plus en fait à l'aide proposée aux indépendants.
Oui, ça concerne évidemment aussi les petits commerces et c'est pour la raison pour laquelle vous avez lancé le plan Corona, c'est ça? Vous dites qu'il faut la mise en place d'une sorte de revenu de quarantaine pour certains emplois?
Alors, dans le plan Corona, ce sont des mesures qui concernent nos membres sociétaires qui visent à les soutenir pendant cette période. Donc, on a annoncé un certain nombre de mesures et effectivement, dans ces mesures, on interpelle les pouvoirs publics pour la mise en place d'un revenu de quarantaine qui permettrait de soulager immédiatement tous ceux qui sont laissés sans ressources, en fait, tous ces actifs.
Et ce revenu, on le fabrique comment, pardon, hein?
Ah ben alors ce revenu, en fait, il est déjà appliqué à l'instar de certains pays comme le Canada qui a mis en place une prestation canadienne d'urgence ou encore l'allocation Corona qui est mise en place en Allemagne et qui permet qui a versé 5 000 euros aux indépendants, comprenant des artistes, des créateurs qui sont nombreux dans notre coopérative aussi. Et qui font la richesse et l'attrait de nos pays quand même.
Bien sûr, vous avez raison de le souligner. Le combat, il est mené partout sur le territoire, dans toutes les catégories, et on le voit avec les différents exemples que nous venons de citer, mais il concerne aussi la ruralité. Avec vous, Christophe Brochot, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être de nouveau avec nous, on est ravis de vous recevoir. Vous étiez venu nous voir dans La France Bouge. Vous êtes le cofondateur de Bouge ton coq et vous avez lancé une initiative baptisée C'est ma tournée. Les particuliers, les entreprises doivent agir pour fournir une cagnotte et redistribuer l'argent au petit commerce, c'est ça l'idée?
Oui, c'est tout à fait ça l'idée. Les particuliers, les entreprises, les pouvoirs publics aussi d'ailleurs peuvent contribuer. L'idée, c'est très simplement de pouvoir collecter de l'argent sur le site bougetoncoq.fr. Et cet argent collecté, grâce à notre partenariat avec l'Association des maires ruraux de France, nous permet en fait d'identifier des sujets, des petits commerçants qui ont des gros problèmes de trésorerie, et très rapidement et de manière très efficace de les financer. On a déjà commencé la semaine dernière à en financer un certain nombre un peu partout en France.
Alors, à quel endroit vous avez commencé à financer?
Alors, ça peut être dans l'Ille-et-Vilaine, dans les Pyrénées-Orientales, dans le Cher, dans le Lot-et-Garonne, dans l'Oise, voilà, un peu partout. Ça peut être aussi bien des restaurants, des auberges, un bar-truck, une boulangerie. Donc voilà, on a identifié ces cas, et ce qui est très important pour nous dans la ruralité, le petit commerce, évidemment ce sont des cas extrêmement difficiles pour ces commerçants, mais à terme, s'ils ont vraiment des difficultés, c'est tout le lien social du village qui peut être mis en cause, et un commerçant qui ferme dans un village, c'est vraiment un drame.
Ça marche dans les villages, ça marche aussi en proche banlieue, hein, faut le dire.
Alors oui, ça marche dans les zones périurbaines, mais on est quand même très axé sur la ruralité. Et notre objectif, c'est vraiment de réunir donc les citoyens sur bougetoncoq.fr, de donner pour aider ces petits commerçants, de réunir les entreprises. Là, on est très heureux de collaborer avec C'est qui le patron, qui a décidé très récemment avec tous ses sociétaires de venir en aide, notamment aux petits commerces en difficulté, donc on collabore avec eux.
Oui, Nicolas Chabanne, qu'on connaît bien, qui était un de nos coachs dans la France.
Un de nos coachs, c'est ça, oui. Ouais, absolument, et qui, c'est formidable ce qu'ils font. Donc on est très très heureux de travailler avec eux. Et ce qui est vraiment important, c'est la collaboration avec l'Association des maires ruraux, parce que ça nous permet d'identifier des cas qui sont réels. C'est vraiment du local. Nous, on collecte en national pour le local. Et donc ça permet en fait d'identifier ces cas, ces urgences. Et chaque cas est tamponné entre guillemets par le maire, ce qui nous assure aussi une visibilité et un sérieux sur les demandes qui sont faites.
C'est lancé depuis 10 jours, c'est ça ?
Alors l'opération est lancée depuis 10 jours. Absolument 100% des fonds sont reversés aux porteurs de projets, enfin de ceux qui sont pas des projets d'ailleurs, sont vraiment des entrepreneurs et assez commerçants. C'est défiscalisé puisque nous sommes d'intérêt général. Et l'objectif, parce qu'on a un grand nombre de situations qui nous remontent via la MRF, bah c'est de collecter bien davantage. Et donc c'est vrai qu'on appelle à tous les citoyens sur bouchetoncoq.fr, toutes les entreprises sur contact bouchetoncoq à se manifester. Pour que ensemble, puisque c'est vraiment le fondement de notre opération, c'est-à-dire entreprises, citoyens et pouvoirs publics, on a des régions qui nous ont contactés, on puisse financer ce monde rural qui en a particulièrement besoin en ce moment.
Alors, vous restez avec nous. Je voudrais vous redonner la parole, Jamshid Dalili, fondateur de la 3W Academy, parce que on n'a pas donné l'adresse à laquelle on peut vous écrire si on a envie de participer ou si on a besoin de vos services.
Absolument. Merci, Raphaël. Les commerçants qui sont intéressés, ils peuvent écrire, envoyer un mail à civisme-numérique@3wa.fr ou alors aller simplement sur la page 3wa.fr/solidaire où il y a tous les détails sur l'opération.
Oui, c'est vrai que c'est important parce que voilà, on fait des actions, nous aussi, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice pour que cette solidarité marche à plein régime. Même chose avec vous, Charlotte, pour Wishibam. Qu'est-ce qu'on fait si on veut vous contacter, si on a besoin de vos services?
Alors, pour nous contacter, donc il faut aller sur le site de Wishibam, donc Wish comme le vœu, W-I-S-H. Et après BAM, B-A-M, comme la rapidité, quoi. Et donc, en fait, sur ce site, vous aurez tous les éléments. C'est une initiative, on ne l'a pas précisé, mais c'est gratuit, sans engagement. Et on le fait vraiment pour aider les commerçants.
Oui, vous avez le sentiment aujourd'hui, Charlotte, que les choses sont en train de changer durablement avec la crise que nous traversons?
Alors, oui, et en plus... en fait, on se rend compte que ça fait des années qu'on parle de transition numérique, de digital pour aider le commerce physique. Et cette crise-là, c'est quand même le moment où on se rend compte à quel point on peut plus être aussi dépendant des facteurs extérieurs et à quel point aujourd'hui le commerce n'est plus juste physique ou en ligne, mais il peut être les deux et les deux se complètent et donc les deux favorisent le commerce.
Même chose pour vous, Christophe Brochot.
Ce qui est formidable, et d'ailleurs vous en êtes la preuve, et merci de donner la parole à toutes ces initiatives, parce que je trouve ça génial. Ce que je trouve formidable, c'est d'abord la générosité et la solidarité des personnes. Donc ça, c'est vraiment... Je trouve que ça fait, voilà, ça fait chaud au cœur, et c'est dans des périodes difficiles, c'est vraiment, vraiment à noter. Et puis, bah, je prêche toujours pour ma paroisse, mais je trouve que cette période, évidemment, va nous amener un certain nombre de réflexions sur... un nouveau mode de vie à venir et je pense que le développement territorial, les ruralités seront un enjeu majeur de demain et de ce point de vue-là, je m'en réjouis si ça peut faire évoluer un certain nombre de mentalités, notamment auprès de nos pouvoirs publics pour développer ces territoires qui sont quand même la richesse de la France. Voilà.
Vous avez bien raison, on est riche en France et on est riche d'idées, vous le montrez chaque jour. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous en direct dans La France Bouge. Il est 13h53.
Europe 1.
Et c'est votre moment maintenant, celui de retrouver Roland Pérez, notre expert, avec vos questions et ses réponses. À tout de suite.
Bouge.
13h55, c'est l'heure de retrouver Roland Pérez. J'étais pressée de vous retrouver, Roland, bonjour.
Moi aussi, j'étais pressée de vous entendre et d'entendre toutes les questions des auditeurs, bonjour.
Bon, vous allez bien, Roland?
Oui, bien sûr.
Bon, alors les questions, effectivement, au 3921 et aussi sur le hashtag Radio Ouverte sur Twitter. On a Gisèle qui nous a appelé pour nous dire « Je vis à Belfort, je suis veuve depuis peu de temps, je ne touche qu'une infime retraite, j'attends la pension de réversion de mon mari, je suis à découvert de 1 700 €, avec cette histoire de confinement, je n'arrive pas à avoir de contact avec les caisses de retraite, la banque, etc. Comment faire? Je suis seule et sans ressources. » On peut l'aider, Roland ?
Oui, bien sûr, on peut l'aider. C'est vrai que c'est un vrai problème parce que tous les dossiers papiers qui ont été envoyés par courrier sont pas traités pour le moment parce que pratiquement tous les salariés sont actuellement en télétravail ou sont en arrêt pour garder les enfants à la maison. La poste ne fonctionne que très peu. Donc il faut essayer d'y aller d'un point de vue numérique. Alors moi je vous propose quelque chose à Gisèle. Il existe un site qui est plutôt bien fait qui s'appelle pension-reversion.fr, pension-reversion-du-milieu, reversion.fr, qui va lui permettre d'avoir toutes les adresses numériques des caisses principales de retraite et des caisses complémentaires de son feu mari, pour essayer peut-être de renvoyer soit des demandes de renseignements sur son dossier, soit d'expliquer qu'elle a déjà envoyé son dossier et qu'elle n'a pas de réponse. La seule bonne nouvelle que je vois, c'est que au moment où son dossier sera traité, elle sera payée dès le début de sa demande, puisqu'il faut faire cette demande de pension de réversion. Ça sera rétroactif, elle n'aura pas de difficulté pour être payée intégralement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui elle n'a pas de contact. Peut-être en passant par ce site, elle aura l'adresse et les adresses numériques qui lui permettront d'être en contact direct avec les caisses de retraite concernées.
Oui, et puis peut-être que dans l'intervalle, elle peut essayer de s'adresser à un de ses voisins ou pour que quelqu'un la dépanne ou aille faire quelques démarches pour elle ou lui prête peut-être un petit peu d'argent si elle est à découvert. Bertrand aussi qui vous pose une question, Roland, qui dit tout est numérosé pour les démarches, la sécurité sociale, la retraite, les impôts, mais je n'ai pas d'ordinateur ni internet. Comment est-ce que je peux faire ?
Ouais, bah oui, il fait partie un petit peu des 13 millions de personnes qui sont aujourd'hui exclues du numérique. On a eu l'occasion déjà d'en parler. Alors il y a des dispositifs qui se multiplient aujourd'hui pour tenter d'accompagner justement les victimes de cette fracture numérique, d'autant dans cette période de confinement où aujourd'hui tout se fait évidemment. On vient de le voir d'ailleurs avec Gisèle et sa question sur sa pension de retraite dont elle n'a pension de retraite de conversion dont elle n'a pas de nouvelles. Alors il y a une coopérative nationale des médiateurs numériques qui s'est mise en place qui s'appelle la MEDNUM, M-E-D-N-U-M, qui justement, avec un numéro de téléphone, permet d'aider les gens à faire leurs démarches notamment administratives. Alors le numéro de téléphone, c'est le 01 70 772 372. On pourra peut-être le mettre également sur la plateforme de La France Bouge. Je répète le numéro 01 70 772 372. Et puis il y a aussi Emmaüs Connect, qui est évidemment, comme son nom l'indique, l'association donc Emmaüs qui a noué un partenariat avec l'opérateur téléphonique SFR et qui va permettre également d'aider les personnes qui ne sont pas équipées à l'heure actuelle pouvoir être équipées avec des téléphones, des recharges mobiles, des tablettes, ordinateurs portables également, même pour les enfants qui n'arrivent pas à suivre leurs cours parce qu'ils n'ont pas de ligne numérique. Le numéro de téléphone pour les joindre est le 01 80 05 98 80 01 80 05 98 80. Voilà, c'est Emmaüs Connect. Voilà des initiatives qui permettent d'aider toutes les victimes aujourd'hui de fractures numériques qui sont d'autant plus victimes que le confinement a gelé tout contact direct avec les services administratifs.
Merci Roland pour ces bons conseils éclairés et on va évidemment vous retrouver dès demain. À demain sur Europe 1.